La foi chrétienne pour les nuls. Avec Marcos, journaliste sans peur et sans talent, et Samos, savant surdiplômé et surestimé.
Encore une fois, professeur Samos, nous sommes heureux de vous avoir parmi nous pendant 6 minutes, afin que vous puissiez nous éclairer sur un grand thème de la foi chrétienne. Aujourd'hui, nous abordons une notion complexe, le péché. Bien des théologiens se sont cassés les dents sur ce sujet. Vous, professeur Samos, nous savons que vous saurez nous transmettre d'une manière claire et limpide l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur ce sujet.
Sans vouloir vous offenser, monsieur Marcos, vous venez de pécher deux fois.
Comment ?
Eh bien, vous m'avez tout d'abord appelé à deux reprises par le titre de professeur. Or bien qu'exerçant cette fonction ici même, puisque nos échanges sont retransmis de par le monde par le moyen des ondes, je lui préfère le titre de docteur, car vous le savez, je suis docteur en biblologie, en sanctologie, en christianismologie.
Oui, bien entendu, docteur, vous avez raison. Pardon pour cette confusion.
Ce n'est rien, je vous pardonne pour cet écart. Votre erreur a été de me surestimer. Bon, vous voulez m'attribuer un titre que je n'ai pas. C'est généreux de votre part, mais c'est erroné. Ce qui n'est pas, n'est pas.
Eh bien, professeur Samos, pourriez-vous me dire pourquoi vous disiez que j'ai péché deux fois ? Quelle autre erreur ai-je faite ?
Vous avez insinué qu'il me faudrait 6 minutes pour répondre à votre question sur le péché. C'est idiot.
Oui, docteur, je suis confus. 6 minutes, à l'évidence, ne pourront pas être suffisantes pour que vous puissiez expliquer l'ensemble des subtilités liées à ce sujet. Je suis désolé.
Vous vous trompez encore.
Ah bon ?
Mais cette fois-ci, vous faites l'erreur inverse. Vous me sous-estimez. Mais que ferais-je donc de vos 6 précieuses minutes pour vous parler du péché ? Une seule minute suffira ?
Une seule minute ?
Absolument, et même moins, une phrase suffira.
Eh bien, très bien, docteur Samos, nous vous écoutons.
Le péché, c'est tout ce qui nous sépare de Dieu.
Mais encore ?
Mais encore quoi ? C'est tout. Il n'y a rien à ajouter. La seule chose qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Et le péché est tout ce qui nous sépare de Dieu. C'est simple, et clair, et limpide, et lumineux, sobre, court, pointu, précis, exact, brillant, autosuffisant, d'une clarté sans ombre.
Docteur, votre définition est certainement très précise et juste, mais pourriez-vous nous donner quelques exemples ?
Mais je l'ai déjà fait.
Mais quand donc ? Mais
vous m'avez appelé professeur, et je vous ai expliqué qu'il fallait m'appeler docteur.
Mais multidocteur ?
Multidocteur, oui, pourquoi pas. Enfin, polydocteur, ça serait peut-être mieux. Donner un titre à quelqu'un qui ne possède pas, c'est commettre une erreur. Le péché, c'est avant tout une erreur de jugement, une erreur d'appréciation.
Pourriez-vous...
Pourriez-vous quoi ? Vous voulez que je vous parle de la racine du mot hébreu qui veut dire péché ? C'est un mot qui veut dire erreur ou faute. Commettre un péché, c'est commettre une faute. Cette faute peut être réalisée en acte, ou par la parole, ou par la pensée. Si vous pensez quelque chose qui est faux, vous péchez, quoi.
Mais enfin, professeur...
Polydocteur.
Oui, enfin, polydocteur, l'erreur est humaine.
Errare ou manum est. En effet, Marco, c'est le péché aussi. C'est bien tout notre drame à nous autres humains. Prenons donc les mots de saint Paul pour aborder cette question. Dans l'Épître aux Romains, que dit-il ? Bah, il se rend compte combien il est incapable de faire le bien. Alors, il dit « J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi.
Oui. » C'est un incapable, voilà tout.
Mais oui, saint Paul est un incapable, vous avez trouvé le bon mot. Il n'est pas capable de faire ce qu'il souhaite. Bien sûr, dans certains domaines, bon, ça peut nous sembler faux. Nous avons tous un minimum de capacité à accomplir ce que nous voulons. Mais pourtant, dans un grand nombre de domaines, et pour bien des raisons, ça nous est impossible. Nous nous trouvons incapables de dire quelque chose que nous pensons, incapables de bien le formuler, incapables de dire non à quelqu'un alors que nous ne sommes pas d'accord, incapables d'écraser une araignée alors qu'elle est pourtant bien petite, ouais, incapables...
Ça, c'est autre chose, c'est la peur.
Oui, oui, enfin, bah, mettez les mots que vous voudrez, hein, la peur, la lâcheté, l'instinct de protection, la névrose compulsive, l'angoisse existentielle ou même le handicap, la maladie. Mais le résultat, c'est toujours le même, le constat est identique. L'homme, même le plus intelligent, même le plus fort, même le plus charitable, il reste limité, limité dans sa volonté et surtout dans ses actes, et surtout limité dans sa capacité à faire coïncider sa volonté avec ses actes.
Enfin, on dit pas que c'est l'intention qui compte ?
On le dit. Et certes, seul Dieu peut juger les cœurs. Mais notre incapacité à agir d'une manière véritablement cohérente dans tous les actes de notre vie montre que nous sommes pécheurs.
Vous voulez dire faibles ?
Oui, oui, oui et non. Certes, nous sommes faibles dans un certain sens. Nous sommes tous dépendants de notre environnement, par exemple, sujets à de nombreuses maladies ou à des accidents de toutes sortes. Nous sommes faibles moralement, incapables de résister bien longtemps à la paresse, à l'appât d'un gain rapide et sans effort, à nos appétits charnels, à la colère, à la médisance. Tout nous rend faibles. Mais en même temps, l'intelligence de l'homme en fait un être unique et terriblement puissant. Nous savons soigner et guérir de nombreuses maladies, voyager par la mer, par air, par terre et même dans l'espace, communiquer sur toute la terre et bien sûr détruire en construisant des engins toujours plus sophistiqués.
Mais alors que faire ?
Eh bien, face à ce constat établi par toutes les civilisations et toutes les philosophies, il y a plusieurs attitudes, bien sûr. Le désespoir ou l'arrogance, la violence ou l'abrutissement généralisé. Mais dans bien des cas, les hommes préfèrent d'autres voies et choisissent à plusieurs de suivre la recherche de la vertu. La vertu permet la recherche du bon et du beau, la protection du faible, le partage des biens, la volonté d'agir pour le bien commun. De nombreux peuples, sous de multiples formes, ont mis la recherche de la vertu comme choix éthique fondateur de leur groupe humain.
Et le peuple hébreu ?
Le peuple hébreu se distingue de tous les autres peuples à ce niveau-là. Car contrairement aux autres peuples, il ne choisit pas de lui-même ses lois et ses contraintes. Il reçoit sa loi directement de Dieu, par l'intermédiaire de Moïse. Il choisit ensuite, en conscience, d'obéir à cette loi pour être saint et parfait comme Dieu.
Et ça marche ?
En principe, oui. Enfin, à condition d'être fidèle à l'alliance de Dieu. C'est là qu'il nous faut faire une distinction, parce que le péché, c'est pas une tare irrémédiable, sans quoi ce serait inutile de vouloir lutter contre.
Alors, quelle distinction proposez-vous ?
La distinction classique de la théologie chrétienne. Distinguer le péché originel, c'est-à-dire notre nature pécheresse, de nos actes. Il existe une faiblesse humaine liée au péché d'Adam, et qui le pousse vers la mort. Tous les hommes partagent cela. Mais ensuite, l'homme reste libre de coller à cette tendance ou de lutter contre elle. Celui qui s'abandonnera à sa tendance mauvaise agira mal, se fera du mal à lui-même et provoquera le mal chez les autres. Celui qui, au contraire, rejettera ce penchant mauvais se tournera vers la vertu.
Ça paraît simple, mais tout de même, c'est plus facile à dire qu'à faire.
Nous en revenons à ce que disait saint Paul. Même en essayant de suivre la loi de Moïse à la lettre, on continue d'être infidèle. Ceci à cause de ce péché originel que nous ne pouvons pas effacer, quels que soient nos efforts.
Et la spécificité chrétienne là-dedans ?
Bingo ! Elle est là, justement ! Nous croyons que par le don librement consenti de sa propre vie, Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu, nous libère du péché originel. Autrement dit, nous libère de notre incapacité à connaître et appliquer la volonté de Dieu.
Donc si je comprends bien, un chrétien ne peut plus pécher ?
Comme on le souhaiterait. En théorie, un chrétien qui vit pleinement sa foi ne peut plus pécher. Mais dans la pratique, la guérison du péché originel réalisée par le baptême le rend plus libre et donc plus responsable de ses actes. Il reste donc libre de croire ou de ne pas croire. Car la foi n'est pas quelque chose d'acquis une fois pour toutes, c'est un engagement quotidien qui se vit dans l'intimité avec le Seigneur au jour le jour.
Eh bien, docteur Samos, pour résumer, nous pourrions dire que le péché...
est ce qui nous sépare de Dieu.
Et...
c'est tout.
Et enfin, nous pourrions...
nous pourrions parler du reste une autre fois.
Vous croyez ?
Je le crois.
Docteur Samos, nous vous remercions.
Je vous en prie.